Bonjour, c'est aujourd'hui le 19 septembre et nous avons encore un saint un peu comme hier, assez étonnant, mais pas pour les mêmes raisons. C'est le fameux saint Janvier de Naples, cet évêque dont les reliques étonnent les gens depuis des siècles, depuis 600 ans, n'est-ce pas, le fameux sang de saint Janvier qui aujourd'hui, en ce 19 septembre, devrait se mettre à bouillir, si on peut dire, ou du moins à manifester par des phénomènes absolument étranges dans des ampoules qui sont complètement scellées depuis des siècles, manifester en passant d'un état complètement compact à un état liquide et à finir par bouillir. On ne sait pas trop pourquoi. Et j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure de façon mystique, ce que cela peut vouloir dire. Je n'ai trouvé aucune explication nulle part, mais moi, à force d'y réfléchir depuis des années, je me suis fait quelques petites idées qui valent ce qu'elles valent. Et j'aurai à vous raconter toutes sortes de choses à ce sujet absolument surprenantes. C'est aussi, en ce 19 septembre, la fête d'une sainte extrêmement intéressante, qui est sainte Émilie de Roda, une noble fondatrice d'une congrégation. Que de fondatrices de congrégations sont canonisées, mais celle-là, en tous les cas, est très attachante. Congrégation de la Sainte Famille. Au temps de la Révolution, elle est née quelques années avant la Révolution. Elle a donc grandi après la Révolution et elle est morte en 1853. Quand je parle de Révolution, je parle évidemment de la fameuse Révolution française. Et c'est aussi la fête d'un bienheureux dont je n'aurai pas le temps de parler, qui m'est cher, Alphonse de Orozco, un ermite de Saint-Augustin qui était prédicateur à la cour de Philippe II, qui est mort en 1591. Un homme fort ascétique, qui est très exigeant, mais très pieux et très bon, qui prêchait à la cour, ce qui n'est pas facile d'essayer de prêcher l'Évangile parmi des gens qui, souvent, préfèrent les honneurs, la gloire et les choses absolument superficielles et inutiles. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, je commence donc avec notre Saint-Janvier. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont le goût de savoir qu'est-ce que c'est que ce problème qui entoure le sang de Saint-Janvier. Je vous dis dès le point de départ que le sang de Saint-Janvier se manifeste chaque année, plusieurs fois. Et Saint-Janvier est en tête de tous les patrons de Naples. Il y a une cinquantaine de patrons à Naples, c'est-à-dire des saints. Je l'explique pour ceux qui se demanderaient ce que ça veut dire, patrons, les plus jeunes. Ce sont ceux que l'on évoque plus particulièrement dans une région donnée, où comme chaque individu a un patron, d'après son prénom, quelqu'un qui s'appelle Guy a comme patron Saint-Guy, dont il a été question ces jours-ci, n'est-ce pas? Et Jean a comme patron Saint-Jean, et plusieurs autres Saint-Jean, car il y en a toute une ribambelle de Saint-Jean. Il peut même choisir celui qu'il désire. Pour modeler, on peut dire, certaines de ses aspirations spirituelles, intérieures, au besoin pour l'invoquer, dans le sens pour lui demander de faire des choses qui puissent l'aider. Et alors donc, Naples a 50 patrons, mais c'est Saint-Janvier qui est le premier. Et alors, sur le personnage lui-même, on prétend ne guère avoir de renseignements, mais d'autres disent qu'on en a d'assez bons. On dit que il n'y a pas de discussion sur l'existence historique de Saint-Janvier. Il était bien l'évêque de Benevento, en Italie. Il a été martyrisé à Pouzzole vers l'an 305, pendant la persécution de Dioclétien, avec ses compagnons Festus et Desiderius. Et le culte est attesté dès la fin du IVe siècle par des documents littéraires et archéologiques. Il y a même des fresques à Nole, n'est-ce pas? On en a aussi dans les catacombes de Naples. Et Saint-Paulin de Nole, dont je vous ai déjà parlé, qui est un saint extrêmement étonnant, hein, quand je vous en ai parlé, je suis sûr que la plupart d'entre vous sont restés surpris. Cet homme, ce Français qui était extrêmement riche et qui, de concert avec sa femme, ont tout donné, mais des terres, il possédait, je ne sais trop, certains disent qu'il possédait presque le cinquième de la France. Ils ont tout donné et puis il s'est retiré, lui, dans le sud de l'Italie, dans la région de Naples, afin d'éviter tout contact avec les gens qui le connaissaient mieux. C'était un Aquitain, n'est-ce pas? Il s'était exilé, donc en Campanie, ce sont les noms qu'on a donnés à ces régions à l'époque. Aujourd'hui, on en parle moins de ces noms. Et la Campanie, ben, c'est la région de Naples. Et on dit que Saint-Paulin, on le prend pour ce que ça vaut, aurait eu sur son lit de mort une vision où il a vu Saint-Martin de Tours et Saint-Janvier, peut-être en 431. En dehors de la Campanie, bien, on rencontre aussi le culte de Saint-Janvier jusqu'à Carthage, dès le VIe siècle, donc c'est très ancien. On a donc à son sujet certaines données, mais pour ce qui est des passions, c'est-à-dire des récits de sa vie, bien, les bénédictins français qui ont fait de longues études sur ce saint sont portés à les rejeter. Je vous ai dit que dans les catacombes de Naples, il y avait une peinture de lui qui date de très longtemps, du 5e siècle. Ça présente Saint-Janvier entre deux cierges. Il est nimbé. Oh, la plupart d'entre vous savent fort bien ce que c'est que nimbé. Je l'explique pour ceux qui ne comprendraient pas. C'est une façon que l'Église a eue depuis très, très, très longtemps de représenter ce qu'on appellerait aujourd'hui l'aura. Ces rayons lumineux qui sortiraient de nos corps, et il y a eu des photos qui ont été prises, d'ailleurs, qui sont très intéressantes, particulièrement en Russie soviétique, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, dans des expériences, sur les auras que nous aurions autour de nos corps, et l'aura des saints, s'il faut en tenir compte de ces découvertes plus ou moins scientifiques des temps modernes, eh bien, l'aura des saints serait infiniment plus lumineuse et plus belle que celle de quiconque. Et c'est ce qui faisait dire à notre saint d'hier, saint Joseph de Cupertino, qu'il ressentait devant quelqu'un voyait des lumières, un éclairage subtil qui se répandait autour du corps, ou bien il allait jusqu'à dire qu'il y avait des odeurs nauséabondes qui se dégageaient de certaines personnes qui étaient loin d'être en état de grâce. Hein, vous vous souvenez de ça hier, saint Joseph de Cupertino. C'est une vie à lire, parce que c'est une des vies les plus fantastiques de l'histoire de l'Église, saint Joseph de Cupertino. Je reviens donc à saint Janvier, qui est entre deux cierges sur cette peinture dans les catacombes de Naples. Il est nimbé avec cette inscription « Sancto Martiri Januario ». Ce qui veut bien dire au saint martyr Janvier, ça lui est dédié, n'est-ce pas? Et au 9e siècle, les reliques sont allées à Bénévent, puis à Montevergine, qui était un monastère extrêmement important. Puis elles sont revenues à Naples en 1497. On a donc des détails qui datent du 11e, du 5e siècle, etc. On sait que les Grecs, qui malheureusement sont séparés de nous, une grande dévotion à Saint-Janvier, le vénère, toujours, ainsi que le 20 avril. De toute façon, le nom de Saint-Janvier est gravé au calendrier de marbre de Naples au 9e siècle. Il est inscrit au calendrier même de Carthage au 6e siècle. Donc, c'est un saint fort ancien, mais son sang ne s'est mis à faire des siennes qu'il y a environ 6 siècles, du moins d'après les dossiers que nous avons, hein. Et les dossiers sont innombrables, car il faut faire un rapport à chaque manifestation. C'est exigé. Et à chaque manifestation du sang de Saint-Janvier, on dit en italien de Naples, « Il roua, il coule ». C'est le cri du cardinal qui tient les ampoules. Des ampoules, c'est pas évidemment comme des ampoules d'éclairage, c'est comme des ampoules un peu que l'on utilise pour prendre des médicaments de nos jours. De toute façon, depuis 6 siècles, Naples, chaque jour, comme aujourd'hui, est suspendu à l'attente du miracle. Miracle entre guillemets, Qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui est unique au monde et on ne peut pas l'expliquer? Aucun savant n'est arrivé à l'expliquer. Le sang de Saint-Janvier, le patron de Naples, conservé donc dans une ampoule reliquaire, il y a deux ampoules, se liquéfie à date fixe. Ça ne peut pas, d'après tous les savants qui ont observé, être une supercherie. Et qu'est-ce que ce signe veut dire? En tout cas, c'est une manifestation de foi populaire. Ils aiment leur Saint-Janvier là-bas, la plèbe napolitaine qu'on appelle les Lazzaroni. C'est une foule presque incontrôlable. C'est une foule extrêmement étrange dans sa foi. C'est pas le genre de foule, moi personnellement, qui me plaît beaucoup, mais je les comprends. Ils n'ont pas eu la chance peut-être de s'instruire et d'aller plus loin que la recherche de phénomènes pour satisfaire leur foi très naïve qui les mène parfois à devenir des gens très généreux et très bons. Ils disent, ces gens-là, nous faisons des miracles avec l'aide du respectable cardinal qui s'est décidé à agir, le cardinal archevêque de Turin, de Naples. Et puis il hésitait, il disait qu'il fallait des prières extraordinaires une fois toute épreuve. Et c'est dans un rapport qu'on peut lire, dans un rapport qui date de très longtemps, c'est un rapport qui a été rédigé par le général en chef Championnet, un Français, qui avait prié comme un diable près de Naples dans le but de conquérir Naples. Et il a cru qu'il fallait faire croire au cardinal que les Français, qui étaient réputés comme étant des athées, des incroyants après la Révolution française, pouvaient envahir Naples puisqu'ils étaient de bons croyants et qu'ils adhéraient au phénomène du sang. Or, ils se sont rendus lentement. Auprès de Naples, ils ont réussi à rentrer en s'affichant comme des croyants. Et les Lazzaroni les ont conduits finalement, la plèbe les a conduits auprès du cardinal, ils ont assisté au phénomène et le sang de Saint-Janvier a coulé. Au même moment, le Vésuve a vomi des flammes et ils ont chanté un Te Deum pour remercier le ciel de l'entrée des Français à Naples. C'est comme ça que les Français avaient conquis Naples vers 1798-99. C'était la conclusion de la campagne de Naples, menée par l'armée française, sous les ordres du général Championnet. Elle avait bien commencé, puis elle avait risqué de mal tourner, finalement, grâce à la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Elle s'était conclue, on ne peut mieux. Alors l'armée napolitaine n'avait presque pas opposé de résistance à l'attaque française. Mais les Napolitains sont restés des Napolitains, qui n'était pas très heureux de voir les Français là. Si le chemin vers Naples s'annonçait comme une promenade, là, on peut dire, pour les 24 000 soldats français engagés dans l'opération, c'était mal connaître, justement, ce peuple de Naples. Les paysans des Abruzzes, où on fabrique des liqueurs très bonnes, j'en ai chez moi, puis se sont soulevés contre cet envahisseur français. C'était la première fois que l'armée régulière française se trouvait confrontée à une sorte de guérilla. Et peu d'insurrections ont été aussi formidables, reconnaît honnêtement un autre général de l'entourage de Championnet, qui s'appelle le général Thiébault. Il écrit, « Après nous avoir forcés à les mépriser comme soldats, eh bien ces Napolitains nous avaient appris à les redouter comme hommes. Lorsqu'il n'y eut plus d'armée napolitaine, la guerre de Naples devint effrayante. Et quoique ces Napolitains aient été battus partout, quoique sans compter les pertes qu'ils firent dans les combats, plus de 60 000 des leurs aient été passés au fil de l'épée. Sur les décombres de leur ville et sur les cendres de leur chaumière, nous ne les avons laissés vaincus sur aucun point. » Vous voyez comme ces Français étaient barbares. Hein? On peut se consoler? Nous étions déjà rendus ici, au Québec, nous. Et c'est pas nous qui avons fait des choses pareilles. Ça, ce sont les Français d'après la Révolution. Je le dis, le sourire un peu aux lèvres, parce que je trouve ça épouvantable. Qu'on puisse tuer 60 000 Napolitains de cette façon, dans le but de conquérir une ville pour y établir un royaume français, c'est insensé. Alors, aux paysans napolitains et les paysans des Abruzzes, eh bien, ont succédé les habitants proprement dits de Naples, les Lazzaroni, abandonnés, eux, par le roi Ferdinand, qui avait pris la fuite en Sicile, sous la protection de Nelson. Mais ils ont organisé la défense de leur ville. Le siège de Naples va préfigurer celui de Saragosse et ça a tourné au massacre. Il fallait se battre pour chaque maison, pour chaque chambre. Et le général Championnet se demandait comment arrêter le carnage. Sa connaissance de la langue italienne l'a aidé. Il a fait arrêter le combat. Il a organisé un meeting dans le quartier tenu par les Français. Et parmi ses auditeurs, il y avait le roi des Lazzaroni, qui s'appelait Michel le Fou, Michele Opazzo, qui fut gagné à la cause de la République française. Il a eu une idée de génie. Il a envoyé un escadron d'honneur à la tombe de Saint-Janvier, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Championnet y a consenti, le général Thiébaut a été chargé de le guider. Thiébaut a pris la tête du détachement, il a pris surtout soin, chaque fois que la situation devenait difficile, de crier à tue-tête « Viva San Gennaro », ce qui veut dire « Vive Saint-Janvier ». Saint-Janvier, comme je vous ai dit, était tellement important qu'entendre des Français dire, crier « Vive Saint-Janvier, viva San Gennaro », eh bien, les Lazzaroni, bon peuple napolitain, leur cœur leur est tourné à l'envers. Alors, les soldats français, encadrés par les Lazzaroni, ont pénétré ainsi dans le centre de la ville. Et ce fut d'abord l'étonnement, c'était bien eux, les athées révolutionnaires. Puis, quand le soupçon est tombé, et que le peuple s'est persuadé que les Français se préoccupaient avant tout de protéger les reliques de leur saint patron, ce fut le revirement total. Et là, une foule immense a suivi les étranges pèlerins français en répondant par des « Vive la République » au « Viva San Gennaro » du peloton français. C'était le 23 janvier 1799. Et le 26, trois jours plus tard, la République a été proclamée. Tout de suite après, le général Championnet, avec une compréhension extraordinaire de la psychologie populaire des Napolitains, a traversé la ville à cheval. Et là, c'est là qu'il est allé prier longtemps sur la tombe de Saint-Janvier. Ému, le vieux cardinal de Naples, Giurlo, Z-U-R-L-O, Giurlo, se laissa convaincre par une si sincère dévotion, croyait-il. Et le rendez-vous avec Saint-Janvier était fixé pour le lendemain, le 27. Et le 27 janvier 1799, les généraux français, qui étaient des généraux élus de la République, les Lazzaroni, puis le clergé napolitain, avec son cardinal archevêque, étaient réunis dans la cathédrale pour demander l'avis de Saint-Janvier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le rapport du général Bonamy, fameux général Bonamy dont il est souvent question à cette époque, faisait savoir à Paris l'heureuse nouvelle. Saint-Janvier avait fait le miracle. Il était donc pour la République. Du coup, tout Naples fut républicain. Et l'image de Saint-Janvier campa sur les entêtes des arrêtés de cette République qu'on appelait la République parthénopéenne, C'est ainsi qu'on désignait cette république créée par Championnet et qui a été là du 23 janvier 1799 au 13 juin suivant, ça n'a pas été bien long, aux dépens du royaume Bourbon de Naples. Alors, il y a eu des fêtes, des réjouissances qui se sont poursuivies pendant plusieurs jours en l'honneur de Saint-Janvier, mais des soldats français et de la République. Et Thiébaut, le général Thiébaut, a conclu « C'est vraiment nous qui avions l'air d'être conquis ». Et Naples commença pour nous les délices de Capoue, heureusement sans les mêmes conséquences. Je vous parlerai un jour peut-être des délices de Capoue, mais je n'en ai pas le temps. Alors donc, à Palerme, en Sicile, la nouvelle a jeté la cour dans la consternation, parce que le roi Ferdinand était rendu là, alors le roi Ferdinand était furieux. Il a privé Saint-Janvier du titre de généralissime de l'armée du royaume, et il l'a remplacé par Saint-Antoine. Comme quoi, on fait des saints ce qu'on veut quand on est roi. Et en 1799, donc, Interpeller le saint patron dans les moments critiques de l'histoire de Naples était déjà une tradition très ancienne. Pour comprendre la mentalité de ces chrétiens du sud de l'Italie, puis du sud de l'Espagne aussi, puis c'est très spécial. Et là, la liquéfaction du sang signifiait donc le bonheur, hein? Et si le sang ne se liquéfiait pas, il fallait s'attendre au pire. Or, la première liquéfaction avait eu lieu le 17 août 1389. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 600 ans. 606 ans. Le 17 août 1389. Et depuis lors, le miracle, appelons-le comme ça, le miracle, se répète chaque année à deux dates fixes au moins. Le samedi avant le premier dimanche de mai. C'est lors de la fête de la translation des reliques de Saint-Janvier à Naples. Ils avaient transporté de Bénévent à Naples. Et aussi le 19 septembre, c'est aujourd'hui le 19 septembre, en la fête du martyr de Saint-Janvier. Mais si une calamité publique, une guerre, la famine, la peste, l'éruption du fameux Vésuve, etc., s'abat sur la ville de Naples, ou qu'un changement de régime s'annonce, ou plus simplement qu'un personnage illustre rend visite aux reliques, le peuple napolitain accourt en masse pour guetter le signe de l'agrément ou de la désapprobation du saint. C'est très, 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 très étrange. Hein? Et le peuple est là aussi pour voir s'il va y avoir une cessation ou une persistance du fléau qu'il craigne. Quoi faire devant tant de choses? L'Église est très mal prise avec ce phénomène. Hein? C'est très, très, très embêtant, surtout dans une Église qui se veut beaucoup plus rationnelle aujourd'hui, beaucoup plus théologique, beaucoup plus près des questions sociales profondes, beaucoup plus près des questions psychologiques, etc. C'est très étrange. Alors, je vous raconte ça pour vous dire dans quel état doit être le cardinal archevêque de Naples aujourd'hui encore, en ce 19 septembre. Le temps d'attente de la liquéfaction du sang joue aussi un rôle dans l'interprétation du miracle, hein, comme on a constaté que dans les temps normaux, ça varie entre 30 et 60 minutes. Un temps plus rapide est signe d'événements heureux, puis un temps plus long ne satisfait qu'à moitié. Le record d'attente a été enregistré, car tout est enregistré dans les moindres détails. Ça s'est déroulé en 1954. Il a fallu patienter 22 heures. Le miracle n'a pas eu lieu en mai 1835. C'est exceptionnel. Ni en mai 1944, temps de la guerre. Et l'année noire reste 1527. Aucun miracle, ni en mai, ni en septembre. Ce qui est nécessaire de rappeler que ce fut l'année du sac de Rome, 1527, par les impériaux de Charles Quint. Le sang en question est contenu dans deux ampoules de verre, renfermées dans un double reliquaire en argent. Le premier reliquaire date du 14e siècle, le deuxième du 15e siècle. Du 17e siècle, pardon. Et le reliquaire extérieur, donc, circulaire, se termine par un manche de 12 cm par lequel on le fixe à une grande châsse en forme d'ostensoir qui sert aussi pour le saisir. Et à l'intérieur des ampoules, on voit une substance brunâtre. L'ampoule la plus grande, de forme elliptique, avec une capacité de 60 cm cubes, en est remplie seulement à moitié. Dans la deuxième ampoule, qui est cylindrique, il y a une capacité de 25 cm cubes seulement, donc moins de la moitié de l'autre. On aperçoit quelques caillots et des taches. Et quand le miracle se produit, eh bien le volume des grumeaux augmente d'environ 72% en mai et d'environ seulement 23% en septembre. Tout ça a été calculé par des savants. C'est unique au monde. La masse devient liquide, mais la liquidité est variable d'une année à l'autre, d'une fête à l'autre. Et parfois, le contenu des ampoules se présente comme un magma visqueux. Et d'autres fois, la liquidité est telle que les ampoules en sont presque remplies. La couleur aussi est variable, et du brunâtre, elle tourne au rougeâtre et au rouge brillant.
Et les anciennes mesures sur la variation de poids, écoutez bien ça, c'est extraordinaire, ne peuvent être retenues. Mais elles ont été prises dans des conditions difficiles et avec des instruments qui ne garantissent peut-être pas l'exactitude. Par contre, les mesures de la température ambiante ont prouvé qu'il n'y a aucune interdépendance entre température du temps de liquéfaction. En fait, on a constaté une liquéfaction rapide, 13 minutes, à 25 degrés centigrades en mai, 25 centigrades. Mais une liquéfaction lente, en 2 heures, ça a pris beaucoup plus de temps, puis c'était 30 degrés en septembre, 30 degrés centigrades. Alors d'autres fois encore, le magma est déjà liquéfié. Quand on ouvre le reliquaire pour l'exposer à la vénération des fidèles, il est déjà liquéfié. Comment ça se fait? Et je continuerai tout à l'heure, après la pause, car tous ces phénomènes sont tellement étranges, étonnants et merveilleux que ça vaut la peine de s'y étendre une fois pour toutes. Nous sommes donc de retour à Rencontres spirituelles et nous parlons encore une fois de choses, de 2 jours de suite, hein, de choses plus ou moins étranges qui se sont déroulées, qui se déroulent toujours dans l'Église cette fois-ci, c'est-à-dire le sang de Saint-Janvier. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors donc, la seule mesure scientifique du sang de Saint-Janvier remonte au 25 septembre 1902, donc au début du siècle, il serait temps d'en faire une autre. La spectrographie de la masse à travers le verre a révélé la présence d'hémoglobine. Il s'agirait donc de sang coagulé. D'autres mesures s'avèrent difficiles sans rompre les ampoules. C'est là le drame et le problème. Ces ampoules sont scellées. Elles sont en effet d'un verre fragile, collé depuis des siècles solidement à la paroi de fond du reliquaire par un mastic qui a fini par faire corps avec elle. C'est-à-dire que le miracle de Saint-Janvier, qui est connu dans le monde entier, a provoqué des polémiques. Hein, c'est des polémiques très vives, dès le XVIe siècle. Moi, je trouve toujours pénible que des gens qui ne veulent pas étudier quelque chose le condamnent tout de suite parce qu'ils disent que ça tient pas debout. Il y a un phénomène. Allons donc l'étudier. C'est pas nécessaire d'y croire pour l'étudier. On peut ouvrir ses yeux, ses oreilles, essayer de comprendre. Or, ce phénomène demeure une merveille pour les uns, et évidemment un scandale superstitieux pour les autres. Hypothèse sur hypothèse, donc, se sont succédées pour en donner une explication scientifique. Et je dirais qu'il faut honnêtement reconnaître qu'aucune n'a été archi-scientifique. De toute façon, les discussions vont bon train, à Naples même. La procession qui se déroulait à travers la ville après le miracle de mai a beaucoup perdu de sa richesse folklorique. Les gens deviennent plus calmes à Naples, heureusement. Elle débutait autrefois le matin par un cortège de clercs, c'est-à-dire de prêtres, d'évêques, la tête couverte d'une couronne de roses et des guirlandes à la main, d'où le nom de Inghirlandat, en guirlandais. On amenait ainsi le buste de Saint-Janvier qui contient le crâne du saint. Dans un des 6 quartiers administratifs de la ville, donc de très longues processions, on a des photos de ça. Et ce reliquaire est l'œuvre d'orfèvres français, oui, Étienne Godefroy et Guillaume de Videlay et Millet d'Auxerre, qui travaillaient à Naples pour la cour d'Anjou entre 1304 et 1306. Et dans l'après-midi, bien, l'archevêque, lors de ses processions de mai, rejoignait le cortège avec le reliquaire du sang, celui-là. Ensuite arrivait le roi de Naples, suivi par les nobles à cheval et les dames en fiacre, pour ce qu'on appelait la cavalcata, la chevauchée. Et sur la place principale du quartier, parée avec des arcs de triomphe, avait lieu la cantata. C'est une composition musicale commandée exprès à l'un des maestris, là, des maîtres de l'école napolitaine. qui terminait la fête dans le plus pur style napolitain. Alors, miracle et procession ont fait de Naples un centre d'attraction d'humbles gens, mais aussi d'illustres personnages à partir du 15e siècle. Je vous en donne quelques noms. Imaginez que des humanistes comme Ennea Silvio Piccolomini, qui est devenu le pape Pie II, c'est pas n'importe qui, hein. C'est lui qui, pour aider les régions qui étaient opprimées par les Turcs musulmans, a confirmé à Mantoue cette ligue, cette association entre les rois de France, de Bourgogne, de Hongrie, puis le doge de Venise, pour repousser ces musulmans. Et c'était un humaniste très, très réputé. Le célèbre Pic de la Mirandole, de son vrai nom Giovanni Pico de la Mirandola, né à Mirandola, et qui est mort à 31 ans en 1494, et qui a laissé la réputation d'être l'un des plus grands génies de son temps, un cerveau absolument exceptionnel. Hein? Quand on dit Pic de la Mirandole, c'est pas n'importe quoi, c'était un philosophe et un savant italien très jeune. Hein? C'est un des plus éminents représentants, si on peut dire, de l'esprit de la Renaissance. Hein? Et puis, les historiens, comme le cardinal Baronius, qui est mort en 1607, un cardinal remarquable, un savant, et dont Jean Mabillon, cet érudit bénédictin français, hein, et qui est mort en 1607, lui aussi la même année. Et puis des philosophes comme Gian Battista ou Jean-Baptiste Vico, mort en 1744, et puis le fameux Benedetto Croce de notre siècle, hein, mort en 1952. Il y a même l'économiste Antonio Genovesi. Tous ces gens-là nous ont laissé des descriptions plus ou moins détaillées de ce phénomène qui continue à partager les croyants à Naples même. Et ce qui n'est pas en discussion entre les cas, c'est l'existence de ce saint. C'est authentique. Il a eu une prédication, semble-t-il, pour les Français. Et Saint-Janvier, bien avant championnait, il y avait eu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à favoriser un roi de France, Charles VIII, qui a bénéficié d'une liquéfaction extraordinaire en 1495. Voici le texte d'un témoin, Robert Gauguin. Il écrit dans le style ancien, « Le dimanche, troisième jour du mois de mai, le roi ouït la messe, a entendu la messe, à Saint-Genis, Saint-Janvier, en la grande église cathédrale à Naples. On lui apporta du précieux sang de celui saint, dedans une grande ampoule de verre, dur comme pierre. Mais après qu'il fut un peu posé sur l'autel, il commença incontinent à soi à chauffer et mollir, ou se ramollir, comme ce fut le sang tiré récent d'homme vivant. » On trouve ça dans la mer des chroniques et miroir historial de France, Paris, 1536. C'est pas d'aujourd'hui. Hein? Donc, le phénomène a lieu constamment. Et on peut dire à ce sujet, comme dit Pic de la Mirandole, au moment du phénomène, la matière liquéfiée acquiert rougeur, fluidité et tous les autres caractères du sang. Montesquieu dit, il est mort en 1755, lui, « Je puis déclarer que le miracle de Saint-Janvier n'est point une supercherie. Les prêtres sont de bonne foi. » Je vous ai dit qu'il y avait de nombreux procès-verbaux. Eh bien, les procès-verbaux, vous savez ce que c'est? C'est un constat officiel, n'est-ce pas, d'un fait. Ben, depuis 1389, on a dressé 5000 et davantage de ces actes pour le prodige qui stupéfie toujours les Napolitains puis leurs visiteurs. Habituellement, la liquéfaction prodigieuse, n'est-ce pas, se produit trois fois l'an, en mai, en septembre, le 19 et le 16 décembre. Les hypothèses scientifiques sont complètement farfelues, n'est-ce pas? On prétend que peut-être la localisation géographique rend l'existence d'une recette particulière applicable régionalement au traitement des reliques sanguines. Mais voyons, Et puis d'autres disent que certaines substances incluses dans les terres où furent inhumés les cadavres, ces éléments n'auraient-ils pas conféré au sang des vertus particulières, conservation et liquéfaction? Mais voyons donc. De toute façon, je crois qu'il faudrait cerner de plus près l'observation par des enregistrements, d'abord sur bande vidéo. On devrait faire des analyses spectroscopiques et spectrographiques, hein, avec de la thermométrie, etc. Je crois qu'il faudrait faire des grandes expertises. Et quelle que soit la position adoptée, de toute façon, puis les propositions émises, il demeure certain que l'étude scientifique d'un fait réputé miraculeux est capitale de nos jours. Hein. Donc, deux fois l'an au moins, le premier samedi de mai et le 19 septembre, je le rappelle pour les touristes, pour les gens qui voyagent, se déroule à la cathédrale de Naples la fête du miracle de Saint-Janvier. C'est un phénomène extraordinaire, incroyable, et n'oublions pas que si Dieu, si c'est lui qui permet ce miracle fantaisiste, presque digne de Salvador Dali, presque digne de gens un peu excentriques, nous rappelle ce que j'essaie de vous dire souvent, c'est que le sang dans la pensée hébraïque, c'est l'âme. Les témoins de Jéhovah nous le rappellent aujourd'hui. Et on le sait bien que dans toute l'histoire du judaïsme, le sang, c'était l'âme. Or, l'âme de Saint-Janvier, représentée ici par le sang, bout, se transforme, s'agite, peut-être pour nous dire que le sang des saints est un sang qui s'agite parce que leur âme est toujours vivante en présence de Dieu, et qu'elle s'émerveille de la foi des gens, du corps mystique du Christ, et que l'âme veut correspondre, signifier quelque chose, et nous engager à avoir nous-mêmes un sang bouillant de foi, bouillant d'adoration, bouillant pour proclamer la vérité, à savoir que le Christ est la vérité. Bouillant, bouillant et bouillant, c'est ce qui nous manque. Nous sommes mornes, assis, couchés, étendus. Il faudrait que nous soyons tous debout, non pas comme des gens qui méprisent les autres et qui les détestent, au contraire, qui les aiment, et que notre amour soit radieux, et que notre sang soit bouillant d'amour. Je crois que c'est la leçon à tirer du sang de Saint-Janvier. Rien d'autre à dire sur ces phénomènes que l'aspect mystique, l'aspect profond. Si nous ne regardons pas ces choses d'un regard mystique, c'est pas la peine d'en parler. Tout ce que je vous ai dit jusqu'ici ne valait rien si on n'en tire pas une leçon pour notre âme, afin que nous jaillissons au fond nous-mêmes vers le Christ et vers les autres. Alors nous sommes de retour à Rencontre spirituelle, et je voudrais maintenant, comme je vous l'ai promis, parler de Sainte Émilie de Roda, fondatrice de la Congrégation de la Sainte Famille, dite de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue en France. Elle est née juste avant la Révolution française, en 1787, et elle est morte en 1863. Elle était née dans une des meilleures familles du Rouergue. C'est une noble. Elle grandissait d'ailleurs auprès de sa grand-mère, Madame de Pomerol, qui est un nom assez fameux, au château de Ginal. C'est une fillette vive, intelligente, un peu capricieuse, un peu vaniteuse même. Elle avait bien des problèmes. Mais heureusement, elle avait quelque chose qui la sauvait, c'était son cœur. Elle avait un cœur qui était très bon. Émilie de Roda donnait donc aux pauvres les bonbons qu'on lui offrait. Et un jour, elle a reçu de l'argent pour s'acheter un couteau qui lui faisait grande envie, mais comme elle se dépêchait vers le magasin, elle a fait un petit calcul dans sa tête. Elle s'est dit, si je n'achetais qu'un couteau de 6 liards, il me resterait 18 sous pour les pauvres. Et du coup, elle a renoncé au joli couteau, et malgré les critiques de sa bonne, elle avait une bonne qui l'accompagnait, elle a acheté un petit couteau bien ordinaire, et sa grand-mère, qui était bien clairvoyante, la faisait s'épanouir dans la joie. Étant petite, nous raconte Émilie, j'avais le défaut de bouder. j'allais me tapir dans l'embrasure d'une fenêtre, et alors ma grand-mère me disait, « Émilie, viens donc près de moi. » Et quand je m'étais rendu à son ordre, elle ajoutait, « Regarde-moi, il faut rire, allez, il faut rire. » Et je faisais la revêche, mais elle persistait, « Oui, oui, il faut rire, allez, allez. » Et jusqu'à je lui souris. Comme ça qu'on peut sortir les enfants de... On le sait, on fait tout ça, hein? On sort les enfants de leur peine comme ça. Et à 11 ans, on était alors en 1798, hein, au moment de la fin de la Révolution, Émilie a fait sa première communion dans la chapelle de son château, du château de sa grand-mère, et elle devint une belle adolescente, et elle a commencé une crise d'âme, là. La Révolution s'achevait, alors elle a pris contact avec le monde. Là, elle a pris goût au monde, elle s'est amusée au mariage de son jeune oncle de Pomerol. Elle a aimé les fêtes, les élégances qui entouraient ce jeune ménage. Elle trouvait charmant d'avoir du succès et puis de mener une vie facile. Et là, la pensée de Dieu devenait de plus en plus lointaine, ainsi ce qui arrive, et la prière ne l'attirait plus. Bon, des habitudes religieuses, quelques petites affaires, ça lui suffisait, hein, pour aller au ciel, pensait-elle, comme la plupart d'entre nous. Hein. Une petite messe le dimanche, ça suffit. Hein. Vous allez voir, et elle n'aimait plus en ce temps ni les religieuses ni les dévotes, hein, comme beaucoup de gens qui sont, se détachent lentement de l'Église. Et alors, elle recherchait des livres bien différents que ceux qu'elle avait lus auparavant. Mais sa grand-mère veillait au grain, lui redonnait de meilleurs livres. La grand-mère, finalement, s'est retirée à Villefranche, dans une maison de religieuse. Et Émilie, alors, est retournée dans le château de ses parents, à Druel, au château de Druel, où elle s'ennuyait fort. Et voilà qu'au cours d'un jubilé, la vie lui est apparue de nouveau dans sa valeur divine. La vie n'a de valeur que sous le regard de Dieu. Enlevons-nous les idées. Si on regarde ça sans le regard de Dieu, c'est pas la peine. La vie devient morne. Alors elle est revenue auprès de sa grand-mère, puis elle a rencontré un prêtre de grande valeur. Et l'âme transformée, bien Émilie, prend la résolution de s'offrir à Dieu sans partage. C'est ça l'affaire. S'offrir à Dieu sans partage. C'est pas nécessaire d'entrer en religion pour ça. On peut le faire dans le monde, on peut le faire marié, on peut le faire célibataire. S'offrir à Dieu sans partage. Alors, elle l'a employé son intelligence. Je vous ai dit qu'elle était intelligente. Ben, elle l'a employé son intelligence. Une intelligence pénétrante. À quoi faire? À étudier la Bible. On dit, ah, la Bible, on n'avait pas le droit de lire ça autrefois. Ben, c'est ça qu'elle a fait. Elle s'est forcée aux mortifications. Elle aurait commencé, comme en son enfance, à distribuer ce qu'on lui donne, allant jusqu'à se priver elle-même du nécessaire. Là, elle s'est mise à secourir les indigents dans leurs taudis, à soigner les malades, à enseigner le catéchisme. C'est en se grouillant qu'on arrive à quelque chose. Hein? Et cependant, elle ne sait pas encore où est sa vraie voie. Elle cherche sa vocation. Elle essaie plusieurs maisons religieuses sans pouvoir se fixer. Et un jour, se trouvant chez une pauvre malade, Émilie entend une femme du peuple qui se lamente. Oh, avant la Révolution, les Ursulines enseignaient gratuitement. On en a des Ursulines à Québec. Hein. Faut-il donc maintenant voir nos enfants croupir dans l'ignorance et ne rien savoir de la religion? Comme dans certaines de nos écoles aujourd'hui, quoi. Et ces paroles sont pour la jeune fille un trait de lumière. Elle sera institutrice des pauvres. Et que les enfants viennent donc chez elle, dans sa propre chambre, et on a vite fait de les lui envoyer, si nombreux qu'elle les entasse sur son lit, sur la table, et bientôt sous la table. Et là, on assoit sur la cheminée, et elle se met à enseigner tout son petit monde. Il en arrive tellement que c'est une véritable classe qu'il va falloir ouvrir, et des jeunes filles animées par un même idéal viennent aider Émilie. Elles prendront avec elles l'habit religieux. Elles s'installent dans une pauvre maison. Elles n'ont comme meuble chacune qu'un lit. Et ce lit qu'elles ont, elles vont le donner à des orphelines. Pour elles, le plancher va suffire. Et en promenant leurs élèves, elles ramassent du bois et se protègent de la pluie par de vieux sacs. Elles font les débuts de la congrégation de la Sainte Famille, fondée par Émilie de Rodat, pour l'instruction des filles pauvres. La vie s'organise peu à peu sous l'ancien couvent, dans l'ancien couvent des Cordeliers, des Franciscains, qu'Émilie a trouvé moyen d'acheter sans argent. Mais que de difficultés, que d'épreuves. Les résultats de ce premier établissement s'avèrent si heureux que d'autres maisons ont été réclamées et Émilie de Rodin a entrepris toutes ses fondations sans protection, sans secours, et elle devient supérieure générale de quoi? Eh bien de 30 maisons et de 400 religieuses. Sa confiance dans la Providence était absolue, aveugle. Quand on se savait, ne savait plus comment sortir des embarras, elle disait « prenez des orphelines ». Et sa réussite avait révélé le secret, c'était de ne jamais refuser un acte de charité et de ne faire aucune provision. Tout ce qui arrivait était immédiatement distribué aux pauvres. La mère elle-même préparait la soupe des pauvres. Une bonne œuvre en entraînait une autre. Visitant des prisonniers, les sœurs découvrirent une malheureuse fille dévoyée qui voulait changer de vie et ne savait comment s'arracher à la misère et à la prostitution. Et alors, Émilie fonda un refuge pour les pénitentes. À la fois sans bornes, son dévouement répondait par des bénédictions merveilleuses à Dieu. Elle disait à ses sœurs, « Quand vous prenez une poignée de riz ou de châtaigne, faites un signe de croix dessus, récitez le pater et allez ensuite avec confiance à distribuer. » Or, toujours se présentaient autant de portions qu'il en fallait. Il y avait donc multiplication de la nourriture. Et si l'argent venait à manquer, on en découvrait dans des endroits fermés. Cette bienheureuse recommandait à ses sœurs toujours la Bible. « Relisez l'Ancien et le Nouveau Testament. Demandez au Saint-Esprit qu'il vous en donne l'intelligence. Ne lisez pas beaucoup à la fois, lisez à petite dose. Faites comme les oiseaux qui, après avoir bu, lèvent la tête et puis boivent encore. » Et sa puissance sur les cœurs était extraordinaire. Elle apparaissait si sereine, si forte, toujours prête à servir encore. Nul ne soupçonnait cependant les tortures d'âme que cachait cette tranquille douceur. Et pendant 30 ans, elle ne sentit pas la foi. Elle n'avait comme si elle n'avait plus la foi. C'est terrible, pendant 30 ans, les tentations de désespoir faisaient tempête dans son âme. Il lui fallait surmonter les répulsions pour le moindre acte de bonté, pour une simple raison. Et par moments, elle ne pouvait que regarder son crucifix. Vous qui êtes dans la pénombre, là, regardez le crucifix. Même si vous ne savez pas prononcer une prière, comme notre sainte d'aujourd'hui, sainte Émilie, voilà donc ce qui se passait dans ce cœur, qui était pourtant un cœur de sainteté. Les souffrances physiques donnaient aussi toutes leurs mesures. Elle souffrait d'un polype au nez, et ça menaçait de devenir un cancer. Ça nécessitait 3 interventions terribles. Les interventions à cette époque, vous imaginez ce que c'était. Et 6 mois avant sa mort, eh bien, les luttes morales ont cessé. Elle a eu 6 mois de répit avant de mourir. Émilie entrait enfin dans la paix. Elle aspirait à la délivrance suprême. Et les jours qui ont précédé sa mort, ou sa fin, ou son passage, devrais-je dire, on l'entendait soupirer. Il n'est pas encore venu. Il tarde bien à m'appeler à lui. Et mourante, Émilie fabriquait encore pour l'œuvre de la Sainte Enfance des vêtements pour les enfants et des couvertures, et elle a quitté la vie en priant et en travaillant. Quelle sainte qui a changé de vie complètement, comme on peut changer nous-mêmes. Et je vous rappelle que vous pouvez invoquer aujourd'hui, en ce 150e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à la Salette, que la douleur de la Vierge, la douleur qui habitait son cœur, était cette douleur qu'elle ressent pour chacun de nous qui ne répondons pas aux appels de son Fils Jésus, et qui pourrait en effet avoir une idée exacte de la peine et de l'angoisse qui étreignait Marie. Et les yeux fixés sur l'avenir, elle voyait la condamnation sur terre de sa race, la race juive, les ruines de Jérusalem, la chute de son peuple juif qui lui était si cher. Et elle a vu comme ça à travers les siècles tant de souffrances, mais elle a toujours cherché à nous aider, Marie, car son cœur est semblable à celui de son Fils. Et le Fils, Jésus, a un cœur qui resplendit de l'amour de son père. Invoquons Marie aujourd'hui, en cet anniversaire, et songeons qu'avec le Christ tout est lumineux.